Radio Zaï accueille Mardi Vision.
J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
Un podcast proposé par la médiathèque de l'École d'art d'Aix-en-Provence et ses étudiantes.
Je l'ai trouvé juste, c'est ça. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit que c'était que tout était juste dans le film.
J'ai l'impression que ça arrive quand le soleil est passé vers l'Atlantique, en fait, quand le soleil s'est couché.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au dernier film de Mati Diop, Atlantique, ayant obtenu le prix du jury au Festival de Cannes. Il s'agit de la première femme noire réalisatrice récompensée dans toute l'histoire du festival. Les premières notes que vous avez entendues sont celles de l'artiste Fatima Al-Kadiri, compositrice de toute la bande originale de ce film, petite pépite musicale.
Moi j'ai bien aimé comment l'océan, les plantes de l'océan fixe comme ça arrivait comme un sorte de marqueur temporel à chaque fois. Enfin ça rythmait le film, c'était assez beau. Comme élément esthétique.
Mais c'est ça, ouais, c'est que c'était particulièrement esthétique comme film, je trouvais. Et pas misérabiliste. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, etc. Mais je me demande si une personne non concernée, ou en tout cas, je sais pas, qui prendrait un peu l'histoire de. En dehors de l'avoir vécu, en quelque sorte, aurait abordé la chose sous ce point de vue. Parce que, évidemment, on parle de misère sociale, on parle de culture, de mariage arrangé, ce genre de choses, et ça peut très vite tomber dans quelque chose de violent, abrupt, de nouveau trop spectaculaire.
Et puis la façon dont la presse, parce que c'est surtout dans la presse qu'on entend parler de l'histoire des migrants. C'est pas du tout le même regard, quoi.
Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important que ce film il soit arrivé dans des institutions comme Cannes et tout, comme des festivals européens. Parce que c'est. Comme tu dis, c'est un film qui a été fait par une personne concernée et qui.
Après, Mati Diop, elle est française et sénégalaise. Et elle a grandi en France. Elle a vécu à Paris. Par contre, elle a une culture sénégalaise de par sa famille, donc elle passe souvent au Sénégal et tout ça, mais elle n'est pas directement concernée par la situation du Sénégal. D'ailleurs, elle le comprend un peu, mais du coup, ça devait être quand même une expérience, je pense, pour diriger le film qu'avec des acteurs dans une langue que tu ne maîtrises pas complètement. Et donc, elle a quand même un regard un peu distant. Même si elle a passé beaucoup de temps, elle a fait un premier film au Sénégal, je crois que c'était en 2013. Donc elle avait déjà fait un premier film beaucoup plus documentaire. Et ensuite elle revient, donc elle a déjà passé beaucoup de temps. Elle connaît bien la situation. Et elle avait fait en fait un court métrage en 2010 qui s'appelait Atlantique. Okay. Déjà, donc en fait, ce film, il est issu d'un court métrage qu'elle avait fait au Sénégal.
Ok.
Qu'on pourra voir aussi.
Et c'était étrange parce qu'il y avait ce ton très mystérieux et assez pesant tout le long du film. Et moi, j'en savais un peu. J'ai trouvé ça presque un peu dommage la fin. Donc, est-ce qu'on spoil ou pas? Je sais pas. Qui finit en enquête et pour le coup, un ton. Qui ressemble à du cinéma, enfin, que l'on retrouve beaucoup dans du cinéma français ou enfin, occidental, auquel je suis beaucoup plus habituée du coup. Et du coup, on sort du film d'une sorte d'ambiance vraiment fantastique et spirituelle, avec un retour à une sorte de réalité. Enfin, c'était étrange, je trouve, comme. C'était un peu rapide. C'était un peu comme si tout le long, en fait, c'était juste une enquête policière. Je trouve que ça minimise un peu tout ce qui se passe au final dans les vies. Comme on disait, que c'est quotidiennement cette vie spirituelle-là, elle habitait un peu tout le monde, j'ai l'impression, dans la culture sénégalaise et tout. Et qu'en fait, on rationalise vachement avec une fin un peu brutale.
Il y a ce geste-là, je pense, pour clôturer le scénario de l'enquête est terminée. Mais après, il me semble qu'il y a. Adda qui s'exprime en face caméra, qui donne même l'étymologie de son nom, qui est Adda à qui l'avenir appartient. Et moi je trouvais que justement, mis à part ce geste qui nous ramène une espèce de rationalité où on clôture l'enquête, le film est fini, après on rentre quand même dans une dimension identitaire qui finalement est traité tout au long du film, cette espèce d'absence amoureuse en fait.
Et puis même d'émancipation aussi dans la place de la femme. Tu parlais du lieu aussi tout à l'heure, du bar. C'est vraiment un lieu où les femmes, elles peuvent... justement, elles retrouvent leurs amants. Et ensuite, Ada, elle va travailler là-bas. Elle s'émancipe de sa famille, de son mari aussi. J'ai l'impression que c'est important.
Mais il y a une scène, un moment au mariage, où elle est sur le balcon. Et, alors, on ne sait pas trop si elle pleure la mort de son amant. Donc Suleyman, et ou si elle pleure finalement sa vie à venir contrainte de ce mariage arrangé. Et il y a une de ses amies, je me demande si c'est d'ailleurs celle qui tient le bar, qui lui dit oui, bah viens on s'en va, viens on y va maintenant, on se casse, c'est parti, on se retire quoi. Et il y a une de ses amies, Fanta, lui dit non mais ça va pas, t'as tout ce qu'il te faut, t'as un grand lit en satin, regarde comme c'est beau ta maison. D'ailleurs c'était assez étrange ce rapport aux objets, enfin c'est compréhensible, mais c'était hyper présent le rapport à la maison qui sacralise le
bien-être
et l'unique possibilité en fait, alors que finalement c'est un lieu qui la clôture.
Et le téléphone aussi.
Ouais carrément. Et elle était sur le point de partir, et en fait il y a un moment donné où Fanta la raisonne avec son ami à côté qui lui dit bon bah non, en fait tu sais très bien que tu vas pas partir parce que dehors c'est la galère, est-ce que tu en es consciente de ça, est-ce que tu réalises ce que ça veut dire qu'être une femme seule dans la rue, de devoir tout bâtir par soi-même, c'est l'impossible. Et du coup c'est un peu le lien que je fais avec la clôture du film Pascam, Ada qui explique l'étymologie de son prénom.
Il y a une puissance quand même dans l'affirmation de moi je reste, je sais pas, le regard, il y avait quelque chose de l'affirmation, il y avait pas forcément là tu sais pas forcément quelle forme ça va prendre, ou est-ce qu'elle se libère de quelque chose ou pas, mais en tout cas il y avait une puissance, je trouve, d'affirmation qui est tout le récit du film, je trouve. Pendant tout le film il y a son trajet, c'est son histoire à elle d'émancipation.
Après c'est une émancipation qui passe aussi à travers les hommes quoi.
Oui.
C'est ce que disait Damien déjà.
C'est que en fait la seule possibilité qu'elle a, c'est de même les femmes pour venger leurs hommes, c'est même plus elles qui incarnent cette vengeance ou cette justice, c'est toujours l'esprit de l'homme qui les habite.
Oui, mais c'est quand même elle qui l'incarne.
Oui, physiquement, à la présence à l'écran, il n'y a quasiment que des femmes, c'est sûr.
Mais c'est ambivalent, parce que ce truc de la sexualité, où elle choisit de coucher avec son amant à la fin, en même temps, c'est assez fort ce moment-là, parce que tout le long du film, elle subit quand même des violences gynécologiques, des choses... d'être obligé de se marier avec un homme plus âgé ou des choses comme ça, et du coup ça, c'est aussi quand même une reprise en main d'une sexualité qui certes c'est aussi tout tourné autour de l'homme, c'est sûr, mais c'est quand même un geste qui dans cette culture là et encore aujourd'hui est hyper fort quoi. C'est pas anodin.
Oui, c'est dans une culture particulière avec certains codes qui sont pas les nôtres effectivement.
Après, la réalisatrice, elle a choisi de faire le... C'est quand même, je pense, le récit d'une migration, en fait. Enfin, d'une émigration par la mer, qui est, enfin, par l'océan, et qui est celle des hommes, en fait. Parce que c'est les hommes qui partent, en fait, pour travailler, et pour ensuite envoyer de l'argent, qui partent en Espagne, pour ensuite envoyer de l'argent à leur famille, donc... Elle a choisi de ne pas faire un récit de ces hommes, mais de le faire plutôt du point de vue des femmes.
Mais peut-être qu'on a mal jugé depuis le début et que Madi Diop a voulu qu'on applaudisse les femmes parce que c'est grâce à elles. Parce que certes, elles réincarnent les hommes, leurs amants qui sont partis, mais c'est quand même grâce à elles qu'elles vont aller taper du pied sur le...
Ah ouais, carrément.
Donc ça, on l'a quand même oublié de le dire, mais je veux dire... C'est vrai que ça passe par l'homme. On ne peut pas le nier parce qu'elles deviennent toutes blanches les yeux. Mais s'il n'y a pas les femmes dans l'histoire, les hommes, ils n'auraient rien fait non plus.
Ils seraient partis, quoi. Ils n'auraient pas été vengés, en fait.
Ils ne seraient pas vengés.
Là, elle leur fait quand même
et
creuser une tombe.
Et c'est la plus belle vengeance, quoi. Creuse la tombe de mes amants, quoi. De moi, quoi. C'est la meilleure chose à faire.
Manifestement, ils peuvent incarner n'importe qui, puisqu'il incarne aussi l'inspecteur, en fait. Okay. Ah non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ce choix est un peu étrange. Le plot est un peu bizarre là-dessus, un peu maladroit, mais... Mais bah là, c'était, voilà, c'était parce que c'était leur proche, les femmes, en effet. Et moi, je trouve pas que ça soit un film, justement, qui revalorise la position de la femme. Je trouve, justement, c'est l'inverse, en fait.
Non,
bah, il y a des films qui font ça beaucoup mieux que ça.
Oui, mais pourquoi on l'aurait pas vu comme ça?
Mais qui valorise la position de la femme, mais en même temps, ça valorise pas la position de la femme parce qu'elle est pas valorisante. Enfin, elles sont pas dans une
très
position...
peu de marge de manœuvre, en fait, dès le départ.
Ouais, ouais, mais évidemment. Mais évidemment que c'est difficile de calquer sur la culture sénégalaise parce que c'est très compliqué. Enfin, des deux côtés, enfin, les hommes partent quasiment au casse-pipe, en fait, chercher du taf. Les femmes doivent rester et travailler.
Oui,
c'est peut-être compliqué d'appliquer justement ce que tu disais ici, nos carcans sur un film qui se passe là-bas, parce que c'est une culture bien spécifique. Quand moi j'entendais que voilà, c'était une revalorisation de la femme, etc. Mais par les choix scénaristiques, bah, je trouve pas, parce qu'en effet, c'est des hommes qui viennent récupérer leur dû, quoi, et manipulent leurs femmes, quitte à mettre leur corps en danger, quoi, pour récupérer leur argent. Enfin, je trouve que c'est pas...
Personne.
Je trouve que si on se dit l'histoire, enfin, moi il n'y a rien qui me saute aux yeux en disant ah ouais tiens, ça valorise.
Personnellement, je ne sais pas si on peut résumer le film par valorisation des femmes ou dévalorisation des femmes, je pense pas que ce
soit. Non, je pense pas, mais c'était pour rebondir sur ce point-là spécifique.
Je pense que c'est quelque chose de plus haut, quoi. C'est pas juste un film sur la place de la femme et la place de l'homme, quoi. Je pense que c'est quelque chose de plus.
Aussi, on doit analyser la situation économique. Par exemple, le mariage et l'examen virginité. Tout est déjà avoir un prix. Tout devient marchandise.
Mais je me demande si le fait que les sortes de propositions critiques sur l'alignation du salarié, la migration, la condition de la femme, le rapport à la croyance, sont pas aussi directs parce que à ce titre-là, mieux faire un documentaire, en fait. Et c'est en ça où je me dis qu'il y a peut-être une vraie volonté d'avoir pris le prisme de l'histoire d'amour, parce que peut-être que ça ramène à quelque chose de plus, plus individuel, plus personnel, qui... peut-être plus poétique aussi, parce que on sent bien qu'au départ on est vraiment dans, on ouvre le film par une révolte ouvrière, et on aurait pu très bien continuer comme ça et suivre ces hommes en mer, dans leur périple, dans leur mort et toute cette déchéance, mais revenir à quelque chose de plus émotionnel, et ça, finalement, ça nous distancie encore de trucs un peu scandaleux, de ce rapport misérabiliste, et on revient à quelque chose de plus poétique. Et moi, je trouve qu'il fonctionne tout aussi bien, et voire même peut-être plus en profondeur, quoi.
Il y a vraiment un passage entre un film assez réaliste aussi, qui traite d'une condition au Sénégal, et puis en même temps aussi de la condition des femmes au Sénégal, et puis il y a ce moment du feu, donc c'est assez intéressant que ce soit l'élément du feu qui fasse le pivot du film, alors que c'est quand même un film qui tourne autour de l'élément plutôt aquatique. Mais donc c'est vraiment le feu qui fait une bascule vers le fantastique. Et presque après, c'est pas forcément fantastique, je dirais que c'est un monde un peu de magique, en fait.
De superstition.
Ouais. D'invisible. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé dans le film, c'est ce rapport entre les forces visibles et les forces invisibles.
J'aime bien ce basculement, justement, très simplement, il nous propose de remettre ça en cause, mais sans justement pointer du doigt une culture de la croyance qui peut-être la sienne, je sais pas. Mais oui, il n'y a rien de bien violent ou de trop critique, je trouve.
Le réalisateur n'a pas montré la situation des ouvriers. C'est pas que l'argent, le salarié, l'histoire salarié. Il faut montrer la situation des ouvriers, le travail et l'aliénation. C'est comme un début. On voit l'Espagne et le lieu et le paradis. mais lui, il n'a pas le papier, il va devenir esclave.
Mais je pense qu'au-delà du rôle socio-culturel dont on parle depuis un petit moment, il y a aussi la thématique de l'absence qui est traitée en fait dans le film, tout le long du film. C'est d'ailleurs la figure en fait de l'Atlantique. Pour moi, c'est la symbolique de l'absence, de la distance, de cette espèce de grand voile de surface qui cache plein de choses en profondeur. Et en fait, les hommes, du coup, partent et sont véritablement absents. Mais je pense que le film traite aussi de l'absence des femmes qui sont ancrées et cloisonnées sur ce territoire, mais en fait qui s'abandonnent. Enfin, Ada, elle s'abandonne complètement à la vie. Et même, elle est complètement perdue. Elle ne sait plus quel rôle elle doit jouer. Et c'est là où il y a la question de l'identité qui revient. Et finalement, quel est son rôle à jouer dans tout ça, parmi tous ces questionnements-là. Mais j'aimais bien cette dimension de l'océan un peu volatile, un peu...
Mais ça rejoint, parce que, bon, je sais pas si ça fait si on peut faire un lien, mais c'est pas le premier à avoir découvert l'Amérique, mais Christophe Colomb, quand il est parti, il voulait aller en Inde, au départ. Pas traverser par la Terre, mais aller faire un raccourci par l'eau. Et il est arrivé en Amérique, il a fait « Ah, c'est l'Inde !» Et ça rejoint le bateau, où il lui explique que quand il était dans le bateau, il a vu une montagne, mais en fait, c'était une vague. Et que... même dans l'ignorance de quelque chose, on crée quelque chose de réel. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais même si on a faux, on est persuadé d'avoir raison.
Oui, tu crées des sortes d'images mentales pour te... t'es obligé de soulever le problème de la non-compréhension.
Une dimension de force, elle est hyper belle, quoi. C'est plan de l'océan, et en même temps, une dangerosité, parce que c'est aussi le cimetière de ces disparus. Il y a un côté vraiment ambivalent de ces plans, à la fois inquiétants et à la fois hyper beaux. Un horizon tout le temps qui n'arrête pas de rythmer le film.
Il y a toujours une espèce d'ambiance un peu...
Je sentais un peu, non ?
Ouais, un petit peu, pas oppressante, mais si. Mystérieuse, étrange, on sait pas où on va.
Je trouve que c'est ça, et l'ambiance lumineuse, moi, ça m'a plu. Je trouve que c'est hyper présent. Enfin, l'horizon qui est, pour moi, je trouve qu'il est complètement fermé, et l'océan, il est clos, en fait. Et ça s'infiltre, je trouve, par la lumière et par la sorte de brume qui est toujours omniprésente. Et une sorte de... Ouais, j'ai trouvé que c'était très pesant et en même temps très beau, quoi. C'est qu'il y a une ambivalence. Parce que c'est une lumière très jaune, très... Enfin, c'est très chaud quand même, mais c'est lourd.
Moi, je me suis posé la question, il y a Suleiman qui dit pas au revoir à Ada. Parce que tout à l'heure, on se demandait, on applaudit des hommes parce qu'ils partent pour aller chercher du travail autre part. Mais en ne pas disant au revoir, il ne peut pas être si fier, peut-être. Ou alors, je me suis posé la question, pourquoi il rate les moments, ou peut-être il ne veut pas l'associer trop, de lui dire qu'il va prendre le bateau pour y aller. Je me suis posé la question, pourquoi il ne lui dit pas au revoir.
Mais s'il lui dit au revoir, elle sait qu'il va partir. Non, c'est...
Puis il y a un peu un au revoir adieu aussi. C'est-à-dire que s'il l'accomplit, s'il finit par lui dire au revoir, ça veut peut-être aussi dire qu'il ne reviendra jamais. Donc il y a un peu ce porte de sortie de « Ok, je suis encore
moment,
un peu là. »
Ouais,
à tout moment, je peux aussi revenir, donc t'inquiète. Lui-même, je pense qu'il essaie de se rassurer, quoi. Et puis il y a une scène où il décrit le moment de leur naufrage en mer, quand il y a cette énorme vague qui s'abat sur eux. Et ils sont tellement dans une naïveté, dans une sorte de d'espoir aveugle de pouvoir y arriver, que il y en a même qui ne savent pas nager, qui y vont, et que avant de conscientiser que c'est pas qu'une vague énorme va s'abattre sur eux, ils pensent à une montagne d'abord. Donc il y a un truc un peu de l'ordre de l'idylle, quelqu'un qui serait complètement obnubilé par cette idée, parce que vraiment c'est le dernier espoir, et donc il n'y a même pas de possibilité de ne pas revenir. C'est la seule solution.